France Inter, le 7-9.
On parle du gel, Claude.
Et de la neige, de la pluie, du froid qui vont venir sur la France cette semaine, quand nous perdrons une douzaine de degrés dans un épisode digne d'un février, liche sur le site de la montagne. Et ce février, en avril, peut amener du malheur, car il suit un épisode anormal de douceur qui a donné un signal prématuré aux plantes. Elle perce. Alors la montagne se souvient qu'il y a un an, le gel tardif avait ravagé le vignoble de Chablis et les arbres fruitiers du Cantal. Le Dauphiné sur son site se souvient qu'en une nuit en Isère, les abricots, les cerises, les nectarines, les pêches, les prunes avaient été foudroyés. Oh, on ne va pas bien dormir dans les jours qui viennent près des vergers. L'expression revient à l'identique sur la montagne et dans la voie du Nord où l'on se prépare, comme depuis 3 ans, à allumer des feux entre les arbres pour conjurer ce froid qui nous poignarde après Mars et son soleil trompeur. La Voix du Nord donne aussi des conseils aux jardiniers amateurs. Ça nous dit qu'il faut éviter d'arroser après l'apéritif du soir et surtout qu'il faut s'armer de patience. Ne repiquons pas nos salades, mais simplement nettoyons nos fraisiers en attendant que le froid s'en aille. Et voilà qui nous rappelle, vieux pays paysan, que le ciel nous commande. Curieusement, je lis ce matin dans les Échos que notre terre agricole devrait être mobilisée dans la lutte contre le réchauffement climatique, car cette terre, si elle est pourvue de plantes efficaces en photosynthèse, stocke le carbone. Oui, mais l'agriculture intensive laisse les sols nus après les récoltes, alors il faudrait mettre en place des cultures intermédiaires, il faudrait cercler nos champs de haies d'arbres et surtout inciter nos paysans au carbon farming. Et oui, l'avenir, ça se jargonne en anglais. Pour compenser, lisez dans la montagne encore une histoire de terroir, celle du poulet du Bourbonnais, qui va recevoir son AOP, consécration pour une volaille, inventée sous Napoléon III par le croisement d'un coq asiatique importé et d'une poule blanche locale. Des générations de femmes ont couvé ce poulet qui avait un rôle social, car les métayers devaient partager avec le propriétaire le bénéfice de la grosse basse-cour d'un de ses oies, mais ils conservaient l'intégralité des bénéfices de la petite basse-cour, le poulet. Le Bourbonnais est élevé en cabane. Avant l'abattage, on l'engraisse à la poudre de lait. Il a ensuite en bouche un goût persillé. C'est un destin.
On parle aussi de 3 enfants.
Dont la croix nous dit qu'ils semblent endormis, recroquevillés, le visage caché, étonnamment intact, mais ces mômes sont morts depuis 5 siècles. Ils étaient 3 enfants de l'empire Inca, qui pour leur beauté avaient été donnés en sacrifice aux dieux et qui après leur mort furent momifiés par le froid et des cendres volcaniques. Mais en 1999, on les a retrouvés comme au jour de leur départ et on les a bougés, étudiés. Ils sont ainsi un trésor scientifique que l'on expose dans un musée archéologique, mais en Argentine, autour d'eux, les disputes sont vives, car en les dérangeant, on a profané un site sacré. Dans la croix encore, on nous dit qu'en Russie, des chercheurs indépendants essayent de comprendre l'armée de M. Poutine en observant dans la presse les noms des soldats que l'on enterre ou bien dans les hôpitaux des registres de soldats blessés. Et leur nom, à ces soldats, raconte une histoire. Ainsi, Magomedov, ce qui est le slave pour Mohamed. Voilà des noms musulmans venus du Daghestan. D'autres soldats tués appartiennent à la minorité kazakh de l'Astrakhan. L'armée russe est une armée de pauvres, d'ouvriers, de paysans, de Sibérie, du Caucase, des membres de minorités fragiles qui forcément protestent moins en mourant. Je lis sur les sites Slate, Numérama, le journal du Geek, que plus de 100 000 citoyens russes ont téléchargé l'intégralité de l'encyclopédie en ligne Wikipédia, de peur qu'elle soit interdite. Dans Le Monde, vous lirez comment en Thaïlande, les travailleurs immigrés birmans donnent une partie de leur pauvre salaire, 5-10 euros par mois, à des intermédiaires qui ensuite reversent la collecte à la guérilla qui, au pays, harcèle les militaires putschistes. Dans Libération, on lit que nous, Européens, Italiens, Français, Grecs, importons toujours du bois de Birmanie dont la vente, contrôlée par les militaires, finance leur pouvoir. Il y a pourtant des sanctions, mais il est si beau ce parquet de tech, la junte aime exporter des produits transformés, subtilement tachés de sang.
Et on parle, Claude, enfin rapidement d'un compte Facebook.
Dont le propriétaire, le dénommé Marc P, fustige au fil de ses publications, que révèle Mediapart, ces saletés de gitans, la gangrène de l'islam, le prophète pédophile, les racisés qui sont une sale race, les Algériens qui sont consanguins, le lobby LGBT, génération de castrés et de décérébrés qui ne savent plus leur genre. J'en passe, pardon, mais ces divagations deviennent intéressantes parce que Monsieur Marc P, qui poste sous son nom, est lieutenant-colonel de la gendarmerie. Il poste aussi souvent en soutien d'un candidat à la présidentielle, dont l'équilibre sacro-saint m'interdit de citer le nom. Vous trouverez des mots plus élégants, une affinité illitaire et peut-être forcée mais curieuse dans la rencontre qu'a organisée le Figaro entre Philippe Lançon et Michel Houellebecq, qui, attablés ensemble, poursuivent leurs pensées. Lançon dit que la bibliothèque d'un homme reflète son âme. Houellebecq pense que Céline avait tort quand il disait que les cons sont toujours la majorité. Dans Libération encore, vous lirez d'autres mots, ceux-là à vif, de détenus de la maison d'arrêt de Roanne que l'écrivaine Delphine de Vigan a accompagnée dans l'écriture d'un livre, Histoire de femmes. L'une d'elles se raconte, fillette au petit nez arrondi, qui sait faire des bisous d'esquimaux. Elle n'est pas momifiée.
Merci Claude pour cette revue de presse. France Inter.